message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Cette histoire du roi Ézéchias, cette histoire vraie bien sûr d'ailleurs, du roi Ézéchias, dont je vous rappelle qu'il était un jeune homme quand il commença de régner, il avait 25 ans, rescapé de la folie meurtrière de son père Akaz, un idolâtre comme jamais Israël n'en a connu. Nous ne reviendrons pas dessus. On a amplement débattu de ces choses dans deux prédications auparavant. Mais je vous rappelle que Ézéchias a expérimenté cette parole du Seigneur par anticipation. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. C'est ce qu'il a fait, ayant à cœur de rétablir la maison de l'Éternel que son père Akaz avait littéralement pillée, avait littéralement dépouillée, avait quitté tous les instruments de culte que l'Éternel avait commandé à Moïse de placer dans la maison, dans le temple. Il nous est dit que cet Akaz était l'un des plus mauvais rois qu'Israël ait pu avoir avec Manassé. Ce sont les deux bouquets de ce qu'il ne faut pas faire. Nous voyons donc Ézéchias avoir ce désir profond de rétablir la maison de l'Éternel pour qu'à nouveau elle puisse fonctionner selon les commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Nous avons vu ces premières parties où on a vu la restauration de la maison. Simplement, je vous rappelle que les souillures ont été jetées hors de la maison de l'Éternel, dans le Cédron. On a quitté certainement des idoles qui devaient traîner là, qu'Akaz avait mis dedans. Nous voyons que pour que l'Église fonctionne et qu'elle fonctionne correctement selon le plan de Dieu, il est nécessaire pour l'Église du Seigneur de mettre dehors toutes les souillures qui peuvent être en son sein. Ça, c'est un principe spirituel très important. L'Église ne vit pas de compromis, elle est appelée à vivre dans la sainteté. Donc, c'est le contraire du compromis, n'est-ce pas? Et c'est ce que les Lévites ont fait sous l'ordre du roi. Ils ont purifié la maison, mais pas seulement la maison, ils se sont purifiés eux-mêmes selon le code du Lévitique dans le chapitre 8, il y a tout un processus de purification pour les Lévites et de sanctification au travers desquels ils devaient passer. Ceci étant fait, ceci étant dit, il y a un passage maintenant que nous allons voir ensemble. C'est la troisième étape. Première étape, rétablir la maison. Deuxième étape, restaurer le service de l'Éternel dans sa maison. Troisième étape, maintenant, le roi a à cœur de faire à nouveau alliance avec Dieu. Et c'est là, dans ce sens, que nous devons voir ce que cela veut dire, ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Il est dit dans 2 Chroniques 29 et verset 10, il est dit ceci: maintenant, j'ai à cœur de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pourquoi? Quel est le but de faire cette nouvelle alliance avec Dieu? Afin que l'ardeur de sa colère se détourne de nous. Voyez-vous, quand on a connu Dieu et qu'on s'est éloigné de Dieu, s'est éloigné de Dieu en coupant les ponts avec le Seigneur, parce qu'à un moment donné de notre vie, on a dérivé loin de Dieu, les circonstances de nos vies nous ont poussés à abandonner la main de Dieu. Nous savons tous, vous et moi, que le fait d'avoir abandonné la main de Dieu va nous amener dans des épreuves et dans une vie qui va pas être une vie de tout repos, parce que Si Dieu n'est pas le centre de nos vies elles sont complètement désordonnées. Et ceux qui ont abandonné la main du Seigneur dans leur vie, à un moment donné de leur vie, ils savent très bien de quoi je parle. Leur vie n'a jamais eu la même saveur que du temps où ils étaient avec le Seigneur. Quand tu as goûté à une source d'eau pure et que tu en vas ensuite à nouveau regoûter à une source d'eau amère, tu t'aperçois de la différence. Et ce que j'aime dans Ézéchias, roi de Juda, un jeune homme de 25 ans, et là, je suis heureux que d'entendre cet âge-là, 25 ans, je me dis qu'il y a une potentialité dans les jeunes aujourd'hui, dans leur jeune âge, c'est s'ils ont un cœur pour le Seigneur, c'est de se lever pour Dieu. On dit que la religion, c'est la religion des vieux. Mais moi, je dis que la vraie religion, celle qui procède d'un cœur pur, celle qui se rattache à Christ et à Christ seul, peut amener des jeunes à avoir vraiment une autorité dans le Seigneur, une puissance dans le Seigneur que certaines personnes qui ont 40 ans de pratique religieuse n'ont pas. Ézéchias avait donc cette perspective de mettre Dieu en priorité dans sa vie. Et peut-être ce matin tu peux te poser cette question, est-ce que comme le roi Ézéchias, ta priorité, c'est d'avoir mis Dieu dans ta vie? C'est une question que nous devons nous poser. Est-il le centre de nos vies? Est-il le centre du rayonnement de nos vies? Est-il au cœur de notre cœur? C'est important. Parce que si cette position-là est prise, alors nous allons avoir une vie heureuse avec le Seigneur. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'épreuve, mais je dis qu'on aura une vie heureuse avec le Seigneur. Et vous dites Amen avec moi, parce que ça c'est une réalité. Alors, ce roi Ézéchias, voilà que, ayant rétabli toutes choses, il les dit dans le verset 10 du chapitre 29 des Chroniques, du deuxième livre des Chroniques, il a eu à cœur de faire alliance avec Dieu. Il a eu à cœur de renouveler l'alliance. Frères et sœurs, Dieu, l'Éternel, notre Dieu, ne brise jamais une alliance. Il est fidèle à ses alliances. Regardez l'Écriture, tout au long de l'Écriture, il n'a jamais rompu une alliance avec les pères dans la foi, comme Abraham, comme Isaac. Si eux ont été infidèles à des moments, jamais Dieu n'a brisé ses alliances. Et chaque fois que Dieu est entré en contact avec l'homme, c'est pour lui rappeler qu'il n'avait jamais abandonné l'alliance qu'il avait fait avec ses pères. Comme jamais Jésus n'abandonnera l'alliance qu'il a faite à Golgotha avec nous. Tu peux compter sur la fidélité de Dieu. Et quand ce roi dit « j'ai à cœur de faire une nouvelle alliance avec Dieu », c'est-à-dire qu'il a à cœur de renouveler l'alliance. Non seulement lui, mais aussi son royaume Juda. Et nous verrons que dans l'Écriture, il n'avait pas simplement cette intention-là que de renouveler l'alliance avec son royaume, avec la tribu de Juda, mais il avait cette intention profonde dans son cœur de renouveler l'alliance avec l'Éternel pour tout le peuple d'Israël. Nous comprenons les choses, frères et sœurs, c'est que après le schisme, vraiment deux tribus s'étaient séparées des 10 autres. Les 10 autres qui étaient montés vers le nord et les 2 autres qui étaient restés près de Jérusalem, près du temple, près de la maison de l'Éternel. Il y avait une espèce de séparation. Ceux qui étaient près de Jérusalem, près de la maison, ils étaient dans la lumière. Ceux qui étaient montés vers le nord, les 10 tribus, ils étaient dans les ténèbres. Ils avaient à nouveau fait un culte qui n'était pas le culte à l'Éternel, mais qui était le culte du veau d'or, ça nous le savons. Adam et Bethel. Mais Ézéchias dit, j'ai à cœur de faire alliance avec le Dieu d'Israël. Frères et sœurs, regardez la responsabilité C'est un roi, n'est-ce pas? Et en ayant à cœur de faire une nouvelle alliance avec Dieu, il entraîne derrière lui le peuple. Tout serviteur de Dieu qui fait alliance avec son Dieu entraîne derrière lui le peuple de Dieu. Il veut renouveler cette alliance. Il veut à nouveau que l'alliance, elle aille dans tout le peuple d'Israël. Il désire que ce peuple à nouveau revienne vers son Dieu. Pourquoi? Afin que l'ardeur de sa colère se détourne de nous. Frères et sœurs, quand tu vas rompre l'alliance avec Dieu, attention, fais attention. Tu as compris que Dieu est amour. Et combien beaucoup se réclament de cet amour, qui confondent l'amour de Dieu avec l'amour humain. Ils se trompent. Mais tu as compris que Dieu aussi est justice. Si tu te détournes de lui, la colère de Dieu demeure sur toi. Paul dit, autrefois nous étions enfants de colère, enfants de la désobéissance. Est-ce que nous retournerions vers ce que nous avons vomi? C'est Pierre qui dit ça. Bien sûr que non. En tout cas, il faut espérer que non. Mais ceux qui le font, et ceux qui s'éloignent du Seigneur, ils demeurent sur la colère de Dieu. Pourquoi? Surtout dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce qu'après avoir participé au don de l'Esprit, avoir goûté au bien du monde à venir, avoir eu toutes les choses de l'alliance qui sont bonnes pour ta vie, qu'à nouveau, tu retournes dans le péché, fais attention à toi. Fais attention à toi. Enfoule pas aux pieds le sang de l'alliance. Faire à nouveau alliance avec Dieu, c'est la renouveler. Avoir à cœur de prendre un nouveau départ sous le regard bienveillant de Dieu qui nous permettra de le placer sur le trône de nos cœurs. Oui, faire à nouveau alliance avec Dieu, c'est remettre Dieu à sa place dans nos vies. Dis Amen, Église. Ça veut dire que Dieu à nouveau vient trôner sur ton cœur. Ça veut dire que ton moi, il est tombé par terre comme une idole et que Dieu à nouveau règne sur toi. Il règne sur toi car son fardeau est doux et léger. Il faut bien préciser les choses. Faire de Jésus-Christ la priorité des priorités de nos vies et faire aussi de l'Église l'objet de notre chérissement. C'est bien ce qu'Ézéchias a fait. Il a aimé la maison de l'Éternel, il l'a réparée, mais aussi il a voulu que tout le peuple vienne dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu aimes l'Église? Est-ce que tu aimes tes frères et tes sœurs? Eh oui. L'alliance nouvelle était bel et bien établie afin de changer les cœurs de pierre pour en faire des cœurs de chair afin de recevoir un esprit nouveau. Frères et sœurs, quand tu as passé des années dans l'idolâtrie, dans les choses du monde, ton cœur s'est endurci, ton cœur s'est sclérosé, ton cœur est devenu insensible aux choses de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu vient et qu'il vient te toucher, alors qu'est-ce que Dieu fait? Selon la promesse de Dieu, je changerai leur cœur de pierre et j'en ferai un cœur de chair et je mettrai en eux un esprit nouveau. Faire alliance avec Dieu, c'est cela. Ton cœur va changer. Et ton état d'esprit aussi d'ailleurs. Et tu vois le fruit. C'est que si tu dis que ton cœur a changé et que tu ne vois pas les fruits dans ton état d'esprit, c'est qu'il y a un problème. Je veux te dire, le fruit, il apparaît tout au long de la saison. Il ne va pas apparaître spontanément. Pour le, par exemple, frères et sœurs, pour que le fruit de la patience apparaisse, il va falloir que tu meures à tes réactions charnelles. Il va falloir que tu apprennes la maîtrise de soi, qui est un fruit du Saint-Esprit. Un fruit n'apparaît pas comme ça. C'est toute une marche avec le Seigneur. Le contrôle de tes paroles, c'est la maîtrise de soi. Tu ne peux l'acquérir que par l'Esprit de Dieu. Quand tu as une action conflictuelle avec un frère ou avec une sœur, qu'à un moment donné, tu te trouves un peu opposé à lui, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui répondre tout de suite? Tu vas le décapiter? Non, tu te tais. Tu prends du recul. Tu pries le Seigneur. Et au bout de quelques jours, tu verras que ta réponse, elle sera bien plus spirituelle que si tu avais répondu immédiatement. Là, ta chair, elle aurait dominé. Donc, nous disons que le fruit doit apparaître. Le fruit doit apparaître parce que Dieu a changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair et il a mis un esprit nouveau en nous. Ça veut dire que l'alliance qui a été faite avec Dieu, l'action de Dieu en nous, c'est ce qui se passe là. Je change leur cœur. Je mets mes lois dans leur cœur. Ça veut dire que mes commandements, je les mets dans leur cœur. Ça veut dire que ces commandements-là que Dieu nous met dans notre cœur vont être le moyen pour nous de nous positionner devant le Seigneur et devant notre prochain. J'ai à cœur, dit Ézéchias. J'ai à cœur. Il fallait que le peuple change de mentalité à l'égard de l'Éternel. Frères et sœurs, Akaz, il a fait une catastrophe. Akaz, il a emmené tout un peuple à l'idolâtrie. Quand nous avons nos gouvernants qui ne nous donnent pas l'exemple, le peuple fera pareil. Si celui qui doit me donner l'exemple en haut, il fait n'importe quoi, moi, à la fin, je dirais, mais si lui, il le fait, pourquoi pas moi? Vrai ou pas? Ézéchias, lui, il désire que le peuple change de mentalité à l'égard de l'Éternel. Il désire que ce peuple qui s'est éloigné de Dieu revienne à son Dieu. Et pour cela, il a à cœur de faire alliance. Pourquoi? Vous avez vu l'amour de ce roi pour son peuple? Il veut que la colère de Dieu se détourne du peuple. T'as compris ça? Est-ce que tu vas trouver une seule personne qui se dresse pour se tenir à la brèche? Dieu dit qu'il cherche une personne qui se tienne à la brèche. Ézéchias se tenait à la brèche pour le peuple. Il a fait en sorte que, en restaurant la maison de l'Éternel et en rétablissant le service dans la maison de l'Éternel, il donne l'occasion au peuple de revenir à son Dieu. L'idolâtrie avait laissé des traces profondes dans le cœur du peuple. Comment faire une nouvelle alliance si ce n'est qu'au travers de la Pâque, faite par excellence où le sang coule? Toute alliance avec Dieu a été ratifiée sur la base du sang. Si le sang n'est pas à la base de l'alliance, l'alliance ne tiendra pas. Regardez bien ce que dit l'Écriture. L'Épître aux Hébreux va nous dire ceci. Dans son chapitre 9, versets 18 à 22, il va dire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire ceci. De là vient qu'aussi la première alliance, Hébreux 9, versets 18 à 22, de là vient qu'aussi la première alliance n'a pas été inauguré sans du sang. Car chaque commandement, pour ce qui concerne la loi, ayant été proclamé par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et en a fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné. Et de la même manière, il fit aspersion du sang sur le tabernacle, aussi sur tous les ustensiles du service. Et presque toutes choses sont purifiées par le sang, selon la loi. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quelle était la fête par excellence pour que l'alliance soit ratifiée? Quelle était la fête au travers duquel Ézéchias voyait qu'il pouvait à nouveau faire alliance avec Dieu et avec le peuple d'Israël, si ce n'est qu'à cette fête de Pâques? Pâques, c'est là où le sang a coulé. C'est à Pâques que Christ a été crucifié. C'est à Pâques que, à la sortie d'Égypte, un agneau a été sacrifié, un agneau par maison de père. Le sang a coulé, on le mettait sur le linteau des maisons, sur les portes d'entrée des maisons, afin que les maisons soient couvertes par la grâce et par l'alliance. Ta maison est gardée, tu sais pourquoi? Parce que tu es dans l'alliance avec Dieu. Si tu n'es pas dans l'alliance avec le Seigneur, ta maison ne sera pas gardée. Et pour que l'alliance puisse être conclue, frères et sœurs, il fallait que le service du temple soit pleinement rétabli. C'est logique. On ne pouvait pas faire la Pâque si le service n'était pas rétabli, si les Lévites n'étaient pas sanctifiés, purifiés, si chacun n'était pas à sa place. Pour que l'alliance, elle soit possible, elle soit inébranlable, elle soit efficace, il faut que chacun dans l'alliance soit à sa place. Si tu veux que l'alliance se fasse dans ta maison, au travers du sang de Jésus, il faut que dans la maison, chacun soit où? À sa place. Ce n'est pas les enfants qui commandent dans les maisons. Chacun a sa place et ce n'est pas risible. Et je ne ris pas en disant ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est les enfants qui sont dans les maisons, les maîtres. Et tu n'es pas dans l'alliance quand ton fils ou ta fille dirige ta maison. Ou tu es baba devant un sourire, devant eux, alors qu'ils sont en train de te faire les pires bêtises. Dans l'alliance, chacun est à sa place. Comprenez les principes spirituels que Dieu nous a donnés. Et peut-être nous ne ferons pas les bêtises que nous faisons. Nous devons régler nos vies et nos maisons selon les principes et les préceptes de Dieu. Si nous nous réclamons de lui, si nous disons que nous confessons Jésus et que Jésus est notre Seigneur, pourquoi tu dis qu'il est Seigneur et tu dis fais pas ce qu'il dit que tu dois faire? Vous dites Seigneur, Seigneur, et pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? C'est Jésus qui l'a dit. Pour faire à nouveau alliance, c'est emprunter le chemin pour une transformation radicale des cœurs. Nous ne pouvons pas faire alliance avec Dieu tant que les éléments fondamentaux ne sont pas à nouveau réunis. Quels sont ces éléments fondamentaux qui doivent être réunis pour faire alliance avec Dieu? C'est pas simplement que j'ai à cœur de faire alliance, mais il faut que je reconnaisse que j'ai rompu l'alliance. Et alors quoi? Quels sont ces principes fondamentaux sur lesquels je dois à nouveau me reposer? Eh bien, c'est repentance. Puis c'est purification de nos consciences par le sang de Jésus, confession de nos péchés, conversion véritable et authentique. Véritable et authentique. Tu es authentifié dans ta conversion quand tu es scellé par l'Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Si tu dis que tu es converti, il faut que le sceau de l'Esprit demeure sur toi. Qu'on voit que tu sois un homme, une femme spirituelle qui porte du fruit à la gloire du Seigneur. Oui, repentance, purification de nos consciences par le sang de Jésus, confession de nos péchés, conversion véritable et authentique, sans sanctification, sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sont les maîtres mots pour conclure une alliance qui soit acceptable devant Dieu, car l'alliance ne concerne pas seulement l'individu, mais aussi tout le peuple. Et l'alliance que je fais avec Dieu ne me concerne pas simplement à moi, mais concerne aussi l'Église. On a trop dissocié l'individu de l'Église. On a trop prêché un salut individualiste et égoïste en perdant la notion de l'Église. L'alliance est le temps par excellence de la Pâque. C'est Golgotha. C'est le rendez-vous inévitable de la croix. Inévitable. Si tu dis que tu crois au Seigneur, c'est inévitable que tu passes par Golgotha. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin que par ce passage au travers du sang de Jésus pour t'approcher devant Dieu. Il faut que tu passes par là. Pour t'approcher du Père, il faut que tu passes par là. Tu n'as pas le choix. Tout autre chemin n'est pas le vrai chemin. Tout de suite après, regardez bien. Maintenant, j'ai à cœur de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, afin que l'ardeur de sa colère se détourne de nous. Et voilà ce que va rajouter le roi. Mais maintenant, mes fils, voyez-vous, l'identification du roi comme un père vis-à-vis de son peuple, ses enfants, comme Dieu, notre Père, et nous, ses enfants. Il va dire ceci, maintenant, mes fils, ne soyez pas négligents. Oh là là. Ne soyez pas négligents. Ne soyez pas négligents dans votre service pour lequel vous avez été choisis. Et de nous tenir devant la face de l'Éternel. Agir avec un nouvel état d'esprit dans nos services et dans nos relations fraternelles. Avoir à cœur de régler nos vies et tenir pour précieux notre appel dans l'Église. Nous servons le Seigneur et nos frères par amour et avec amour. Ne soyez pas négligents. Ne soyez pas négligents dans votre service. Tu crois que tu sers le Seigneur parce que tu viens le dimanche matin à un culte? Ou parce que tu viens à une réunion de semaine? Tu crois que c'est suffisant pour servir Dieu? Mon Dieu que je sers dans mon esprit, dit Paul. Il dit ça dans les Romains. Dans mon esprit. Et l'Esprit de Dieu en nous, c'est 24 heures sur 24. Je ne dis pas que tu vas être 24 heures avec le Seigneur. Je vais dire que parce que tu es la pensée de Christ, tout au long de ta journée, tes pensées sont tournées vers lui. Qui un chant de louange ou d'adoration, qui une prière spontanée, qui des larmes parce que tu t'aperçois l'amour dont Dieu t'entoure et tu peux être seul et pleurer devant Dieu parce que tu sais qu'il y a cet amour de Dieu qui est sur ta vie. Mais c'est ça la vraie communion avec Dieu. Ce n'est pas l'obligation de venir à l'église, n'est-ce pas? Sinon tu te trompes. Hein? Tu peux venir ici à l'église toutes les semaines et puis partir en enfer. Hein? L'église, elle n'a jamais sauvé personne. Ni le pasteur non plus. Hein? Ni les ministères non plus. Celui qui sauve parfaitement, c'est le Christ. Et gloire à Dieu pour ses serviteurs qui se tiennent à la brèche. Il y en a de bons serviteurs, ça existe. Ne soyez pas négligents. Regardez, 2 Chroniques 29, versets 10 à 15. Ne soyez pas négligents, car c'est vous que l'Éternel a. A quoi ? Il a quoi, l'Éternel ? Il vous a quoi ? Il vous a qui ? Il vous a quoi ? C'est quoi ? Il vous a quoi ? Dites-le ! Il vous a choisi ! Mais le choix de Dieu, c'est magnifique ! Dieu t'a choisi ! Et qui tiens-toi, Philippe Garcia, pour que Dieu t'ait choisi ? Et toi, là-bas, qui tiens-toi pour que Dieu t'ait choisi ? Qui prétends-tu être que tu sois, toi ? Parce que Dieu t'a choisi. Et toi, qu'est-ce que tu es, toi ? Rien. Dieu t'a choisi. Il m'a choisi pour la vie éternelle. Moi ? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Rien. Il t'a choisi pour le servir. Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans ? Rien, si ce n'est que tu te dois ton Dieu par l'alliance. Là, il faut arrêter de faire du cinéma évangélique. Tout ce que vous avez à faire et que vous l'avez fait parce que vous étiez obligé de le faire par amour pour le Seigneur. Vous êtes des serviteurs, dites-le fort. Je ne sais pas si les anges ont entendu ce matin. Non mais je veux moi une harmonie, hein, parce que là, alors là. Nous sommes des serviteurs. Ah merci. Oh, il y a du monde ce matin qui crie quand même. C'est bien. Il vous a choisi. J'ai à cœur de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, afin que l'ardeur de sa colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, ne soyez pas négligents, car c'est vous que l'Éternel a choisi. C'est pareil pour l'élection. Il nous a prédestinés. Il nous a choisis. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. Il veut aussi nous glorifier. Voilà, ça c'est le choix et le dessein de Dieu. Et là-dedans, tu es partie prenante dans la part que tu dois accomplir devant Dieu. Mais Dieu t'a choisi, c'est un mystère. Pourquoi toi, Eduardo ? Pourquoi toi, Anne ? Et à cause de ce choix, à cause des talents que Dieu nous a donnés à chacun, nous ne devons pas être négligents. Que celui qui a des oreilles entende et que tu t'examines avec cette parole pour savoir si dans ton service tu n'es pas négligent avec Dieu. Et si tu es négligent avec Dieu, tu es négligent avec tes frères et tes sœurs. Verset 12, et les Lévites se levèrent. Église, lève-toi, mon frère, ma soeur, lève-toi. Ne sois pas négligent et à cœur l'œuvre de Dieu. Lève-toi pour le Seigneur. Ne dis pas, moi, Dieu ne m'a rien donné. C'est faux. C'est faux. Et permets-moi de te dire que si tu es dans cet état d'esprit, tu n'as rien compris ou tu es un menteur ou une menteuse. que l'Écriture nous déclare que Dieu, selon la mesure de sa grâce, a donné à l'un cela, à l'autre cela, à l'autre cela. Ne dis pas que Dieu t'a rien donné. Si t'as donné, c'est pour le faire fructifier. Et ne fais pas Dieu menteur. Alors bien sûr, nous voyons là, dans ce passage, les Lévites se levèrent, et nous savons que les Lévites, il y avait trois familles chez les Lévites. Il y avait les fils d'Aaron et trois familles, leurs enfants, Gershom, Kehat et Merari. Et ces trois familles-là, c'était celles qui étaient consacrées pour le tabernacle de Dieu, pour le temple de Dieu. Et c'est eux qui avaient la fonction du service dans le temple. Les Kehatites, c'était ceux qui avaient le privilège de rentrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Et quand il fallait démonter le tabernacle, je peux vous assurer, quand vous lisez un petit peu la façon dont ça se passait, eh ben, il y avait de la crainte, parce que tu pouvais sortir mort de là si tu n'étais pas en état. Tu ne posais même pas le regard sur l'arche de Dieu. Tu risquais la mort. Et aujourd'hui, dans l'église, on sert, alléluia, sœurs, on vient dans l'église. Vous voyez les sœurs avec les mini-jupes, elles sont comme ça, elles ne savent pas comment faire pour se cacher leur string. Et vous voyez les autres qui arrivent. Mais qu'est-ce que c'est que cette pétaudière? Ah, Christ nous a franchis. Ah, nous sommes libres. Ben viens en bikini dans l'église. Pourquoi pas? Ils mettront des caleçons de fin lin blanc afin qu'on n'en voie pas la nudité de leur chair quand ils se présenteront devant moi. Est-ce que vous savez que la chair pécheresse, Dieu ne peut pas la supporter? Elle est contraire à la nature divine. Ils rassemblèrent leurs frères et se sanctifièrent. Ils entrèrent selon le commandement du roi, d'après les paroles de l'Éternel, pour purifier la maison. Les portes de l'église doivent être réparées. Trop de choses malsaines et de l'or du péché l'ont pénétré. Il est temps de jeter dehors tous les compromis, toute tolérance à l'égard du péché dans un excès de sentimentalisme, dénaturant la parole du Seigneur. La foi n'est pas l'humanisme, qui est issu de sentiments humains non régénérés. La restauration des principes fondamentaux de l'Église devrait être comme les deux colonnes inébranlables du temple de Salomon. Oui, dans le temple de Salomon, il nous est dit qu'il y avait deux colonnes, les plus costauds, les plus belles. Une s'appelait Yakim, et cette colonne Yakim veut dire en hébreu « il établira », c'est-à-dire Dieu établira à nouveau son Église dans les principes de sainteté, de consécration, et de Boaz, il affermira, car en Dieu est la force, et c'est lui et lui seul qui le fait. C'est Dieu qui fera cette chose. Il a aidé Ézéchias. Nous avons beaucoup de principes spirituels très puissants à sortir de ce texte pour l'Église. Nous avons besoin de retrouver la vraie réalité de l'alliance, d'une vraie alliance avec Dieu, la réalité d'un vrai service avec Dieu, la réalité d'une vraie sanctification de nos vies, la réalité de la vision du peuple de Dieu et non pas notre égoïsme personnel focalisé sur ce que je suis. La foi n'est pas l'humanisme. L'Église a lentement dérivé, perdant de vue le cap de bonne espérance. Sous l'impulsion d'une prédication diluée, sans force, adaptée à la complaisance d'un auditoire dans lequel la flamme du Saint-Esprit n'existe pas ou plus, sa conscience collective s'est cautérisée. Elle réagit même plus à la parole de Dieu. Le contenu des prédications évacue toute notion de péché. Elles ont une action lénifiante et apaisante pour les consciences à cause d'un humanisme démesuré. Le but, prêcher l'amour de Dieu qui pardonne tout en évitant soigneusement de parler de sa justice qui a été manifestée puissamment à Golgotha. La croix est une prédication démodée qui ne doit pas heurter les bien-pensants. C'est la lente dérive vers la mort, je dis. Ça, c'est le Seigneur qui me l'a donné. C'est la lente dérive vers la mort. Dans la théologie moderne, dans la prédication moderne, on a évacué le principe de la croix. On ne veut pas choquer les gens avec le péché, avec la croix. On veut plutôt leur dire, le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va vous donner ci, le Seigneur va vous donner là, entretenir des fausses espérances dans le cœur des croyants. Prédication qui ricoche en surface, mais qui n'atteignent jamais le fond. Le seul vrai remède, c'est la prédication du véritable évangile dans toute sa simplicité, mais aussi dans toute sa force. Cet évangile qui a le pouvoir de nous amener à nous examiner dans le miroir de la parole de Dieu et à nous communiquer la notion élevée de la sainteté de Dieu. C'est démodé de parler de sainteté dans une vie. Christ nous a affranchis. Tu peux venir à l'église avec ta clope. Ou alors tu peux venir à l'église sortir de boîte. De toutes les façons, Dieu est avec toi dans la boîte. Non, mais vous savez ce que j'ai entendu. Hein? Ça, c'est chez les super spirituels. J'ai entendu ça. Hein? D'ailleurs, si je vais en boîte, le Saint-Esprit en moi, il sanctifie la boîte. Non, mais vous avez entendu ça. Ils sont fous. Ils croient être sages, ils sont devenus fous, dit Paul. Le seul vrai remède, c'est la prédication du véritable évangile dans toute sa simplicité, mais aussi dans toute sa force. Paul disait, je ne suis pas venu au milieu de vous avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais avec une démonstration de la puissance de Dieu par son esprit. L'allégorie se poursuit avec les brèches des temples vivants que nous sommes. Il est nécessaire qu'elles soient réparées, jeter dehors de nos vies toutes sortes et formes de souillures et les refermer une fois pour toutes afin que toute la place soit occupée par le Saint-Esprit. Voilà ce que déclare l'Écriture. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine, une ville sans muraille. Proverbe 25-28. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine, sans muraille. Et Paul va dire dans les Corinthiens au chapitre 6 et au verset 9, il va dire ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-même. Car vous avez été acheté à prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Et un peu plus loin, 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et tel vous êtes. Tous nos compromis, toutes nos faiblesses, tout le péché qui nous environne si facilement, qui nous obsède, qui nous assaille et contre lequel nous n'avons pas encore combattu jusqu'au sang et parfois même que nous tolérons, nous devons y mettre fin. Seigneur, aide-nous. Comme le roi Ézéchias, nous devons accomplir ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. 2 Chroniques 29:2, il est dit: et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David, son père. Alors le service rétabli, la maison purifiée, l'ordre cultuel pleinement réalisé, tout est à sa place, tout est dans l'ordre divin. pour que désormais l'autel des holocaustes puisse fonctionner en faveur du peuple et des pécheurs. Et je vous l'ai dit, la maison de l'Éternel est pleinement efficace que si l'autel des holocaustes fonctionne. Quitte l'autel et le tabernacle n'a pas lieu d'exister. Quitte la croix et ta foi n'a pas lieu d'exister. Quitte l'autel sur lequel on faisait les sacrifices pour les pécheurs et c'est fini, tu es perdu. L'animal n'est plus ton substitut. Et dans la nouvelle alliance, Jésus n'est plus ton substitut à ce moment-là. Quitte la croix, il n'y a plus rien. Je vous ai dit tout à l'heure que la croix était un signe scellé par Dieu pour l'éternité. C'est la référence dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il y a une louange qui éclate dans les cieux, une louange des anges à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Quelqu'un a cru, quelqu'un a été mis au bénéfice de la croix, quelqu'un est sauvé maintenant et les anges se réjouissent. Ils adorent le Seigneur. Car le verbe là, dans l'hébreu, le verbe yada en hébreu, veut dire aussi bien confesser ses péchés que louer et adorer. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Chaque fois qu'il y a un seul pécheur qui se repent en bas, selon l'ordre divin, il y a la louange et l'adoration qui explosent dans les cieux. Voilà encore une âme rachetée. Une âme qui rentre dans le royaume, Dieu se réjouit. Une de ces créatures qu'il a créées avec son amour qui revient à lui. Le service est rétabli, la maison purifiée, l'ordre culturel pleinement réalisé, tout est à sa place, tout est dans l'ordre divin pour que désormais l'autel des holocaustes puisse fonctionner en faveur du peuple et des pécheurs. Maintenant, dans 2 Chroniques 29 et versets 17 à 19, il est dit, ils commencèrent la sanctification le premier jour du mois, et au huitième jour du mois, ils vinrent au portique de l'Éternel et sanctifièrent la maison de l'Éternel pendant 8 jours, et le 16e jour du premier mois, ils eurent achevé. Ils entrèrent chez le roi Ézéchias et dirent, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel et l'autel des holocaustes. Vous avez vu les premiers instruments qu'ils citent, c'est quoi? Eh oui, sans la croix, il n'y a rien. Et l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et la table des pains, n'est-ce pas? Et à placer en rangée tous ses ustensiles, nous avons mis tout en état et sanctifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait rejetés pendant son règne, pendant son péché, et voici, ils sont devant l'autel de l'Éternel. Suite à l'obéissance de ses lévites, il nous est dit en 2 Chroniques 20-29 qu'Ézéchias se leva de bonne heure avec les chefs de la ville de Jérusalem et monta à la maison de l'Éternel. Alors là, ça me plaît. Il est dit que Ézéchias se leva de bonne heure. Alors peut-être c'est 9h du matin, hein? Peut-être c'est 10h pour ceux qui aiment la couette. Mais le verbe, le mot hébreu ne dit pas ça du tout. Il est dit que c'est au moment, au point où la nuit se termine et que ça commence, l'homme commence à venir. Ça veut dire qu'il n'est pas question ni de 9h ni de 10h. Il n'est pas question de 8h, il n'est pas question de 7h, il n'est pas question de 6h, il n'est pas question de 5h. Il est question de 4h du matin. Le roi s'est levé très 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 de bonne heure et nous nous levons très 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 tard. Croyez-vous que ces hommes-là, ils n'avaient pas autant de travail que nous en avons aujourd'hui? Je pense qu'ils avaient un travail plus pénible que nous encore, hein. Ils n'avaient pas de bagnole pour se déplacer, ils n'avaient pas de tramway. Et pourtant, oh, dans cette génération, quand vous dites, comment tu vas? Ah, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. J'ai travaillé 2 heures, je suis fatigué. Il nous est dit qu'il se leva de bonne heure pour monter à la maison de l'Éternel, mais il n'est pas monté seul, figurez-vous. Il n'est pas monté seul, il n'a pas fait son petit business tout seul, Ézéchias. Il a pris avec lui les chefs et les responsables de la ville de Jérusalem. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ces autorités de la ville avaient permis que dans chaque rue de Jérusalem, il y ait des idoles de partout. Les autorités d'une ville ont une responsabilité devant Dieu. Vous le savez ça ? Nos maires, nos conseillers généraux, ils croient que c'est de la... On va se remplir les poches. Les présidents de conseil régional, M. Sarkozy et toute la bande, ils croient que... Mais un jour, ils rendront des comptes au Seigneur. Ils pensent, ah, mes frères, mes amis, mon peuple, on est dans une situation dramatique. La dette est énorme, énorme, et la dette ? Et oui, elle est énorme. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui avez géré. Et qu'est-ce que vous avez fait de la gestion ? Et maintenant que vous n'avez pas su gérer le pays pendant des décennies, vous demandez encore au peuple de payer les poids cossés. Et vous continuez à vous remplir les poches. Ils vont geler 30% de leur salaire. Ça me fait une belle jambe. Comme si on ne savait pas que, par exemple, dans l'Élysée, il y avait des caisses noires d'argent où ils puissent dedans, hein, avec nos impôts, et ni vu, ni connu. Et même s'ils n'ont pas d'argent, ceux qui profitent des marchés multinationaux que notre pays a, les grands poules, ils se chargent, eux, de les financer. Il nous est dit que le roi Ézéchias se leva de bonne heure et assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Voici encore un principe spirituel que nous devons expérimenter, rechercher la face de l'Éternel dès le matin. Dès le matin. Pas dans la journée. Excuse-moi, la journée, c'est difficile. Moi, je suis comme vous. Il y a trop d'activités dans la journée. Il y a trop de téléphones qui sonnent, il y a trop les petits-enfants qui arrivent. Tu peux te concentrer, toi, sur les choses de Dieu quand tu es pris dans les activités de la journée. Et où tu vas chercher ta relation avec Dieu ? Entre deux casseroles ? David disait, fais-moi entendre dès le matin ta bonté, dès le point du jour. Car en toi j'ai mis ma confiance, fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher, car c'est vers toi que je lève mon âme. Dans l'écriture, très souvent, le mot matin signifie matin, point du jour, de bonheur, fin de la nuit. Fin de la nuit. On le trouve 189 fois dans l'Ancien Testament, ce mot. Ça veut dire que tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, ils ne connaissaient pas la couette. Pourquoi avec les chefs de la ville de Jérusalem ? Parce qu'en tant qu'autorité, ils avaient une grande responsabilité quant à l'intégrité spirituelle du peuple. En tolérant l'idolâtrie dans toutes les rues de Jérusalem, ils ont été responsables en partie du détournement du peuple envers l'Éternel. Ils avaient fait leur le compromis du roi Akaz concernant cette idolâtrie en Juda. Il était nécessaire qu'ils se repentent eux aussi. Souvenez-vous ce qu'Akaz avait fait. Il nous a dit qu'Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il les cassa tous. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels dans tous les coins de Jérusalem. Et dans chacune des villes de Juda, il fit des hauts lieux pour brûler de l'encens à d'autres dieux. Il provoqua à colère l'Éternel, le Dieu de ses pères. Donc, tous ceux qui avaient responsabilité, les anciens qui siégeaient, hein, comme ces anciens qui étaient à la porte de la ville du temps de Sodome et Gomorre, Lot, il nous est dit que Lot était assis à la porte de la ville. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faisait ? Il était ancien de la ville, il siégeait, il rendait les décrets de justice. C'était un homme responsable, Lot. Mais quelle faillite ! Il laissait l'homosexualité dans la ville se développer. Comme aujourd'hui, nous voyons et ce maire, excusez-moi, qui dit « Ah, nous avons marié deux homosexuels, nous ouvrons la voie. » Paul dit « Ils se sont enflammés les uns envers les autres, laissant leur propre nature, homme avec homme, femme avec femme. » Ils sont inexcusables. Ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, c'est devenu dans une proportion telle. Vous savez ce que Jésus avait dit? Quand le Fils de l'homme reviendra, ça sera comme du temps de Sodome et... Alors, le roi et les anciens de la ville de Jérusalem offrirent des sacrifices pour les péchés commis par l'intermédiaire des ils le firent par l'intermédiaire des sacrificateurs fils d'Aaron pour quatre raisons profondes et dans quatre directions différentes. Premièrement, il nous est dit qu'ils firent des sacrifices pour le royaume de Juda et Benjamin. Vous trouvez ça dans 2 Chroniques 20 et verset 21. Donc, il y a déjà un sacrifice pour les péchés, pour le royaume de Juda et pour la tribu de Benjamin. Ça, c'est la première direction. Deuxièmement, ils firent des sacrifices pour le sanctuaire. Troisièmement, ils ont fait des sacrifices spécifiquement pour Juda. Et ensuite, ils ont fait des sacrifices pour tout Israël. Vous vous rendez compte comment ce roi, il avait la vision d'un peuple? Est-ce que nous avons la vision de l'Église? Même la vision de l'Église est dénaturée chez nous. Nous le corps du Seigneur, le corps de Christ, nous en avons une vague notion. Nous croyons que le corps, c'est tous les istes, tous les hic, toutes ces églises qui se sont montées, et ça, c'est le corps de Christ. Mais ce n'est pas ça du tout. Le corps de Christ était un corps mystique. C'est un corps spirituel. Et tous les hic et les istes ne sont pas tous spirituels parce que certains ne veulent pas entendre parler des dons, ils veulent même pas entendre parler du Saint-Esprit, etc. etc. Donc on ne peut pas dire que ça c'est le corps de Christ. Il nous a baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Baptisés dans un seul... Voilà. Ça c'est le corps. Nous avons eu tendance de dire le corps de Christ, c'est toutes les dénominations. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qui est la réalité, c'est que le corps de Christ, c'est ce qui a été uni par l'Esprit de Dieu. Point barre. Toute autre interprétation n'est pas biblique. Ça fait partie de l'humanisme. Ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur veut. Remarquons ici un détail important. Si Ézéchias était le roi de Juda, néanmoins son cœur était tout entier pour tout le peuple d'Israël, malgré le schisme. Ses sacrifices incluent tout le peuple en entier, et là est le symbole de l'unité. Un seul peuple avec un seul cœur. C'est ce que Ézéchias voulait. Il a fait des sacrifices pour cela. C'est un petit peu comme tu fais des sacrifices de prière. Nous devons demander au Seigneur une notion bien plus élevée que la notion que nous avons aujourd'hui encore de l'Église du Seigneur. Notre vision est étriquée. Si tu veux avoir une grande vision, il faut que tu nous connaisses ce grand Dieu. Tu auras la vision de ce que tu auras perçu de Dieu. Si tu as une petite vision de Dieu parce que tu as une petite communion avec Dieu, ta vision sera étriquée. Mais si tu as une bonne communion avec le Seigneur, tu rentreras dans la vision de Dieu. Et celle-là, elle sera bien plus grande. souvenez au départ ce que c'était. J'ai à cœur de faire alliance à nouveau avec l'Éternel. Vous voyez ce que ça implique? J'ai à cœur à nouveau de ramener le cœur du peuple vers son Dieu. J'ai à cœur que la maison dans laquelle on fait le service de l'Éternel soit une maison sainte. J'ai à cœur que dans la maison de Dieu, tout soit en ordre. J'ai à cœur que la maison de Dieu fonctionne selon les règles de sainteté de Dieu. Vous croyez que dans le royaume de Dieu en haut, c'est n'importe quoi? Quelle tristesse quand nous pouvons aller visiter certaines églises en mission et que nous voyons le désordre dans lequel vivent les églises. Mais c'est un crève-cœur. Tu ne viens pas là pour balancer ton message. Tu viens là pour saisir la vision de Dieu pour ce pays. Il nous est dit quelque chose de très important dans 2 Chroniques 29, 25. Il est dit, toutes ces choses furent ainsi faites, car le commandement était de la part de l'Éternel par ses prophètes. Les prophètes ont un rôle à jouer. Et nous verrons que les prophètes auront un rôle à jouer dans cette affaire d'Ézéchias. Le mouvement prophétique dans notre génération est un mouvement qui va prendre de plus en plus d'importance dans la fin des temps. Nous verrons que dans ce passage d'Ézéchias, il y a des éléments très, très précis concernant l'enlèvement de l'Église. Le prophète, c'est quelqu'un qui porte la parole de Dieu. Et le prophète ne peut pas parler autre chose que la parole de Dieu. Le prophète, dans les derniers temps, il aura ce message qui va avoir cette capacité de parler au cœur du peuple de Dieu pour ramener le cœur de Dieu à son Dieu avant l'enlèvement de l'Église. Les prophètes sont en quelque sorte des trompettes de Dieu. Ce sont des hommes qui vont sonner de la trompette. Or, on ne sonnait pas en Israël de la trompette comme cela, juste pour s'amuser. La trompette était des trompettes d'argent, symbole de la rédemption. Et Dieu avait donné le nombre de coups de trompette qu'il fallait donner, soit pour aller à la bataille, soit pour lever le camp, etc., etc., etc. Regardez dans les Nombres, au chapitre 10, vous verrez. Et vous vous apercevrez que ces trompettes-là, c'était des trompettes qui avertissaient le peuple quand le peuple devait partir dans une direction. Ainsi en sera-t-il quand le Seigneur viendra chercher son Église dans les airs, quand il viendra chercher l'Église finitive de cette génération. Les prophètes auront auparavant préparé ce terrain pour avertir le peuple de Dieu de l'imminence du retour du Seigneur et de notre enlèvement auprès de lui. Ces prophètes auront un message qui aura la capacité de toucher le cœur de Dieu pour ramener le cœur du peuple vers son Dieu. Il en sera ainsi. Et quand la chose sera accomplie, parce que les prophètes auront parlé, c'est le Saint-Esprit qui aura rassemblé tout cela. Parce que la bouche de l'Éternel l'a commandé et son esprit les a rassemblés. Et ça sera l'enlèvement. Nous avons beaucoup d'enseignements très précieux à tirer du reste de cette prédication que nous verrons dimanche prochain. C'est pas fini. Avoir à cœur aujourd'hui de faire à nouveau alliance avec Dieu est un des premiers pas qui nous prépare à l'enlèvement. Avoir à cœur de rétablir dans nos vies rétablir rétablir dans nos vies le vrai fonctionnement d'une vie en Christ. C'est quelque chose que le Seigneur veut. Avoir à cœur de ne pas être négligent dans les choses que Dieu nous a confiées. Dieu nous a choisis. Toutes ces choses qui sont dites ce matin, c'est pour quoi faire? Est-ce que je les ai inventées ou vous les avez lues dans la parole et vous avez tous vos Bibles? Vous avez bien lu ce qui est écrit. Faire alliance avec Dieu afin que la colère de Dieu se détourne du peuple. Mes frères, on n'est pas des idolâtres, nous. Ah bon? Non, tu n'es pas idolâtre. Quelle place il a ton fils dans ta maison? Quelle place il a ton compte en banque dans ta vie? Quelle place elle a ta voiture dans ta vie? Quelle place et quelle place dans ton cœur? Quelle place a ton ministère dans ta vie? Quelle place a ton service dans le Seigneur? Ne dis pas comme Charles Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche. En trois fois plus grand, mon nom s'est allé. C'est moi. Vous m'avez vu? C'est moi. Le seul chemin que le Seigneur veut, que nous passions, c'est l'humilité. Ne pas être négligent dans l'œuvre de Dieu, c'est se tenir dans l'humilité, servir Dieu, non pas pour paraître, mais pour disparaître. Quand tout ça fut rétabli, et je termine par là, quand tes sacrifices ont été faits dans les quatre directions, pour tout Israël, pour le sanctuaire, pour la tribu de Juda, et puis ensuite pour le royaume de Juda et pour Benjamin, car toutes ces choses furent faites, car le commandement de l'Éternel était donné par les prophètes. Alors dans 2 Chroniques 29 et verset 25, voilà ce qui va se passer. Alors la louange, l'adoration et la joie peuvent à nouveau éclater. Et voilà ce qu'il est dit. 2 Chroniques 29, versets 25 à 31. Il plaça les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes selon le commandement de David et de Gad, le voyant du roi, et de Nathan le prophète. Car le commandement était de la part de l'Éternel par ses prophètes. Ils s'appuyaient, frères et sœurs, ils s'appuyaient sur le commandement de l'Éternel par les prophètes, sur des hommes. Des prophètes de poids, Nathan qui avait repris David, Gad le voyant. C'était des hommes de Dieu. C'était des prophètes de Dieu. Ils sont venus reprendre les rois. Ils reprenaient les peuples de la part de l'Éternel. Et Ézéchias a agi sur le commandement de l'Éternel qui avait été donné par ces prophètes-là. Il nous a dit, car le commandement était de la part de l'Éternel par ses prophètes, et les Lévites se tinrent là avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias dit d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, le cantique de l'Éternel commença, et les trompettes avec l'accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Et toute la congrégation se prosterna, et le cantique se chanta, et les trompettes sonnèrent tout le temps jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui se trouvaient là avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. Et le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de louer l'Éternel avec les paroles de David. Mes frères et sœurs, quelle joie! Quelle joie de retrouver l'alliance avec Dieu! Quelle joie de servir Dieu, de ne pas être négligent dans nos services! Quelle joie de retrouver le cœur et le chemin du cœur de Dieu! Quelle joie de savoir qu'on est dans le plan de Dieu. Alors la louange éclate, alors la joie éclate. Alors nous sommes dans la paix et nous savons que l'Éternel a son regard posé sur nous. Nous savons qu'il est avec nous, nous savons qu'il œuvre avec nous. Pourquoi? Parce que nous allons voir qu'après cela, après qu'ils aient eu fait toutes ces choses, après que la louange et l'adoration aient été, n'est-ce pas, à nouveau redonnée au peuple de Dieu, c'est ce que j'appelle moi la restauration de l'adoration, ils l'avaient perdue, il n'y avait plus de temple. Alors il nous est dit, et on le verra la semaine prochaine, que Dieu écouta la prière d'Ézéchias et qu'il guérit tout le peuple. Dieu veut guérir toute l'Église. Et si l'Église fonctionne selon le principe divin, oui. Sinon, non.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net